Et après, on vient nous dire que les personnes d'un certain âge n'ont pas la pêche, mais ils ont tout ce qu'il faut, ils ont la pêche et la foi. C'est bien. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, c'est une excellente initiative que tu as prise. À refaire. Vous êtes d'accord, les jeunes là, qui ont chanté là? Vous êtes d'accord? Je peux un petit truc humoristique. Parce que tout à l'heure, je disais à ma femme, je crois que j'ai un nom pour la chorale. Oui. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir. Hein. Ça ne fait rien, je le dis. Hein. Les joyeux pince-nez du dimanche. Je savais que là, ça n'allait pas marcher. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'avec le Seigneur, on est heureux de vivre. On est heureux d'être dans la communion fraternelle, heureux d'entendre ses frères et sœurs chanter, qui, il ne faut pas oublier, pendant des années, ont été des gens, des frères et sœurs fidèles, et qui, avec la grâce de Dieu, leur resteront jusqu'au bout. Et là, je dirais, eh bien, tous ceux qui sont là puissent prendre ses amis comme exemple. Savoir qu'on est heureux de vivre avec le Seigneur, malgré parfois des temps difficiles. Mais cela prouve bien que Dieu est un Dieu fidèle, que Jésus est celui qui nous apporte la bénédiction divine, qui nous permet d'être debout encore à un âge avancé, et que même dans un âge avancé, ça paraît anodin, mais rien que de chanter le nom de Jésus, ça peut être un bon témoignage pour ceux qui sont au milieu de nous. Puis j'ai une autre petite pensée qui m'est venue aussi, et elle s'adresse aux anciens. Je dis, ça serait bien le dimanche où cela sera réitéré, que vous prépariez des petites invitations pour vos amis qui sont à l'extérieur de l'église, et de les inviter en disant, tiens, je t'invite, je chante dimanche dans mon église, viens m'écouter. Je vois qu'ils sont tous d'accord, ils vont tous dire amen. C'est des petites idées qui viennent comme ça. Et je crois que soit on les accepte, soit on les refuse. Mais le but, c'est de rendre témoignage de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ. En cet après-midi, je voudrais, avec l'aide du Seigneur, vous parler sur une guérison divine que le Seigneur Jésus a opérée, mais qui est aussi d'un enseignement certain. Alors, on va aller directement dans la parole de Dieu, le Nouveau Testament, plus exactement, si vous l'avez avec vous. Et on va lire... Ce passage qui nous parle d'une guérison, mais on va suivre un certain cheminement pour nous réaliser comment le miracle peut s'accomplir. Et surtout de ne pas se tromper dans le raisonnement lorsque l'on vient au Seigneur. Il est écrit ceci dans Luc, donc chapitre 7 et verset 1er. Luc chapitre 7, verset 1er, il est écrit ceci. Je vais lire parce que c'est facile à trouver, Luc 7, 1. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui l'écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne mérite pas ce que tu rentres dans ma ou sous mon toit ou dans ma maison. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à une autorité supérieure, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre va et ou vient et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier, se tourna vers la foule qui le suivait et dit, Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Amen. Gloire à Dieu. Nous assistons à une délivrance miraculeuse, puisqu'au début du texte que nous avons lu, ce serviteur du centenier était prêt de mourir, et qu'à la conclusion de ce même texte, il nous est dit que le serviteur qui était malade se trouvait en bonne santé, c'est-à-dire qu'il était guéri. Mais pour arriver à la guérison qui débute sur une demande du centenier, je dirais qu'il y a tout un cheminement, et plus précisément qu'il y a là, si nous faisons bien attention, des regards différents et des prises de position différentes. Quand le centenier s'est adressé aux anciens des Juifs pour aller trouver Jésus-Christ et leur faire part du problème, à savoir que son serviteur était à l'article de la mort, ces hommes juifs religieux sont allés trouver le Seigneur Jésus-Christ avec, bien sûr, cette demande sur le cœur. Mais quand on s'aperçoit ce qu'ils disent, eh bien, ils disent ceci, je vais le redire, « Venant et faisant portant à la connaissance de Jésus ce problème, ils disent, et je pense que vous l'avez remarqué, en parlant du centenier, ils disent, « Il est digne que tu lui accordes cela. » Et si vous faites bien attention, eh bien, le Seigneur Jésus ne va pas répondre à ces gens-là. Et je dis ici que, quand même, il y a une erreur. Ce centenier était bien vu de la part des gens de Capernaum, des religieux, et ils le disent, il mérite que tu fasses cela, que tu lui accordes cela. Et regardez ce qu'ils disent derrière, c'est parce que, eh bien, en fait, il aime notre nation et il a bâti même une maison, un temple, une synagogue plus exactement, pour nous. C'est un homme extraordinaire, en fait, c'est un homme de bien. Et ce que je remarque ici, c'est que ces hommes sont venus avec la demande, mais en ayant un esprit qui met en évidence toutes les qualités que possédait le centenier. Mais Jésus, je le répète, ne répond pas. Parce que quand on s'aperçoit ce que nous enseigne la Bible, c'est que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence humaine. Qu'il ait des qualités, c'est un fait certain. C'est mentionné, tout le monde a pu le voir. Mais ce que le Seigneur veut voir, c'est autre chose que les qualités. Et c'est pour cela qu'il est peut-être bon de dire « il est digne » ou dans d'autres traductions, il dit « il mérite que tu lui accordes cela ». Et sans vouloir vexer qui que ce soit en cet après-midi, je voudrais vous dire qu'il n'y ait pas dans vos pensées un faux aiguillage qui se place. Et de croire que parce que nous avons des qualités, parce que nous faisons des œuvres, parce que nous faisons de bonnes actions, automatiquement, je mérite que Dieu prenne compassion de ma personne parce que, en fait, je fais beaucoup de choses. Mais si nous pensons ainsi, nous sommes en contradiction avec la parole de Dieu et avec ce que Dieu demande. Je prendrai un seul texte comme cela qui, bien sûr, va mettre en évidence non seulement que Dieu ne regarde pas aux œuvres, mais c'est que nous sommes sauvés par la foi. Les œuvres sans la foi ne trouvent aucune efficacité auprès de Dieu. De même, et il est bon peut-être de l'ajouter, que la foi sans les œuvres ne trouve pas un impact tout à fait favorable. Donc, ces hommes viennent avec leur connaissance d'un homme humain. Ils mettent en évidence ce que cet homme a fait pour leur nation, une nation qu'il aime. Il aime son serviteur, car quel homme aurait eu autant, je vais dire, d'affection démontrée pour un serviteur malade. Il aurait pu laisser dans un coin et le laisser mourir. Mais non, il est même dit qu'il lui était très cher, ce serviteur. Alors, le centenier met tout en action pour que le Seigneur Jésus, dont il a eu connaissance, qu'il était celui qui guérissait les malades, celui qui est venu au secours des gens, alors il lui apporte par ses hommes, eh bien, le message. Et le message aurait été simple. Le maître, le centenier, demande à ce que tu passes dans sa maison pour que tu viennes prier pour le serviteur malade. Mais non, ils ont enjolivé. Et là, je m'aperçois que le Seigneur dit rien. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que le Seigneur répond toujours à la détresse des gens. Il ne les laisse pas dans leurs problèmes, dans leurs difficultés. Invoque-moi au jour de la détresse, est-il écrit, et je te délivrerai. Ce centenier a exprimé la détresse, sa peine d'une part, mais la détresse de voir son serviteur près de mourir. Alors, il va au secours de celui qui peut agir et bénir et guérir. Mais le Seigneur Jésus ne répond pas à ces hommes, parce que, en fait, ce n'était pas fondé sur une bonne interprétation. Par contre, je le dis, le Seigneur Jésus les a suivis. Nous le voyons dans le texte. Il est écrit ceci pour tous ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, que le Seigneur Jésus ne déroge pas à ce qu'il enseigne. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 28, vous connaissez tous ce verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes déprimés et qui êtes ou qui ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. En clair, je vous donnerai la délivrance dont vous avez besoin. » Et cette délivrance, elle ne sera pas seulement physique, elle sera intérieure, parce que le Seigneur Jésus, quand il agit sur le corps, il agit sur l'âme, il agit de manière à ce que nous soyons dans la paix et dans une assurance pour l'éternité. Alléluia. C'est ce que fait le Seigneur Jésus lorsqu'on vient vers lui, lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on le demande, mais il ne répondra pas à ce verbe mériter, parce que, excusez, je vais le dire, je suis passé par là, nous ne méritons rien. Tout ce que nous avons, nous le recevons par grâce. Et je vais aller même plus loin dans ma pensée en cet après-midi, c'est que bien des gens ne le réalisent pas. Mais à partir du jour où nous prenons vie, c'est une grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce. Et plus nous avançons dans la vie, mais plein de personnes ne sont pas conscientes, que vivre, c'est quand même une grâce de Dieu. Car qui c'est qui nous a donné le souffle de la vie? C'est Dieu. Et le jour où Dieu prend la décision de nous couper le souffle de la vie, c'est terminé. Et tout ce dont nous jouissons dans le monde, dans la vie que nous menons, c'est une grâce de Dieu. Bien sûr que notre vie peut être compliquée, bien sûr qu'il peut y avoir des épreuves, et parfois des amis se débattent dans leurs épreuves, leurs difficultés, dans les larmes, dans la déprime, parce qu'ils n'ont pas trouvé ou intercédé auprès du trône de la grâce, qui s'appelle le trône de Dieu. Et si je me tourne vers Dieu, alors, la Bible dit, je me tourne vers Dieu, je lui fais connaître mes problèmes. Il est celui qui entend, il est celui qui répond, et il ajoute, celui qui se tourne vers moi rayonnera de joie. C'est ce que la Bible enseigne. Et nous ne devons pas mettre ces textes de côté. Peut-être quelqu'un est rentré dans cette salle aussi déprimé, fatigué, découragé, malade, peut-être dans un état de cœur qui n'est pas conforme à ce que Dieu demande. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la victoire de Dieu en Jésus-Christ. Car il est là. Il est là. Comme il était dans la ville de Capernaum, il est là. Maintenant, c'est à qui il va prendre la décision de venir à Jésus, de lui faire connaître son problème, mais aussi peut-être de réaliser qu'il n'est pas si parfait que ça, parce que nous vivons dans un monde où pas mal se croient parfaits, pour ne pas dire justes. Mais la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Un seul a vécu sur la terre de ce monde, en vivant d'une manière juste. Juste parce qu'il n'a commis aucun péché, aucun méfait. Il a vécu d'une manière juste et il s'appelle Jésus-Christ. C'est parce qu'il a vécu d'une manière juste qu'il a pu donner sa vie à la croix, comme on l'a chanté tout à l'heure, et qu'il nous a ouvert par la croix le chemin qui conduit au ciel, mais qui nous révèle aussi que non seulement le chemin est ouvert, mais pour celui qui s'approche de lui, pour celui qui l'invoque, pour celui qui croit en lui, alors il obtiendra le pardon de ses péchés et l'assurance de la vie éternelle, mais aussi la guérison de ses maux, mais aussi les bénédictions dont il aura besoin dans sa vie. Et Dieu aujourd'hui est toujours le même. Alléluia. Alors, Jésus est allé vers cet homme. Et vous avez remarqué comme moi qu'en allant vers cet homme, ou plus vers la maison de ce centenier, il nous est dit qu'à un moment donné, le centenier a réfléchi. Et puis là, il n'a pas envoyé des chefs des Juifs, il a envoyé de ses amis auprès de Jésus avec un autre message. Et que dit-il? Eh bien, il est peut-être bon de souligner, il envoie ce message: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu rentres sur mon toit. » Tiens donc. Et il ajoute: « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » Cet homme n'est pas dans la présence de Jésus. Il est à quelques kilomètres, on va dire, quelques mètres, comme vous voulez. Mais déjà, il prend conscience d'une chose et il le dit au travers de ses amis qui lui transmettent à Jésus son message. Il a dit de te dire qu'il n'était pas digne de se, car c'est ça en fait, de se tenir en ta présence. Il ajoute bien, hein, ne viens pas dans ma maison, je ne suis pas digne. Et c'est parce que je ne suis pas digne que je ne me suis pas rendu vers toi. En fait, là, cet homme est en train de confesser quelque chose. Je ne suis pas juste. Je ne suis pas clair. Bien que j'ai quelques mérites. Bien que j'ai fait quelques actions, mais je ne suis pas, entre guillemets, meilleur que mes pères. En clair, il est en train de dire, ou sous-entendu, nous pouvons le dire comme cela ce soir ou cet après-midi, eh bien, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. C'est un homme qui adresse des paroles en ce qui le concerne pleines de vérité, mais vis-à-vis de Jésus pleines d'humilité. Je ne suis pas digne parce que je suis un homme pécheur. Et nous comprenons que cet homme est en train de dire au Seigneur Jésus, eh bien, tu as quand même la toute-puissance pour agir et pour bénir. Moi, je voudrais vous dire simplement ceci, que si nous nous reconnaissons pécheurs devant le Seigneur, parce que vous avez tous des qualités, nous tous, on a des qualités, même avant de rencontrer le Seigneur. Mais même avant de rencontrer le Seigneur, nous avions des défauts. J'ai une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous êtes des gens sans défauts? Difficile à dire oui. Hein. Mais tous vos défauts, le Seigneur peut les changer. Il peut les changer en bien. Amen. Et oui, il fait de nous, quand on vient vers lui et quand on l'accepte, il fait de nous des créatures nouvelles. Et logiquement, nous devrions être des gens sans défauts. Parce que nous aimons la parole de Dieu. Parce que nous devons accepter le message. Et parce que le message que nous apportons ou que nous lisons, que nous recevons, nous amène à vivre ce que la Bible appelle la perfection. Bon, n'allez pas demander à ma femme si je suis parfait, autrement je vais avoir des problèmes. Mais nous avons tous des progrès à faire. En quoi? Dans la perfection. En fait, que les qualités que nous avons soient multipliées au service de Dieu quand nous nous tournons vers lui et que les défauts, eux, disparaissent. Ainsi, nous porterons en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, un témoignage qui honore le Père Céleste. Et notre témoignage annoncé dans le nom de Jésus portera ses fruits par rapport à tous ceux qui nous entourent. Cet homme est en train de dire, je ne me suis pas digne, ou contrairement à ce que pensaient et ont dit les chefs religieux, il mérite, lui il est en train de dire, Seigneur Jésus, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Ils se sont trompés sur moi parce que oui, j'ai quelques qualités, mais j'ai aussi des défauts, donc je ne mérite pas ce que je suis en train de demander. Mais en fait, je ne te le demande pas pour moi. Car c'est ça aussi qui veut dire, je te demande grâce pour mon serviteur qui est en train de mourir. Et voyez-vous, tout à l'heure, les juifs, là, ils voyaient l'homme avec un regard magnifique, extraordinaire. Il a fait de grandes choses. Et il est mis sur un piédestal. Ça, c'est le regard humain. L'homme, sans tenir lui, il a un regard intérieur. En fait, il ne regarde pas à son être extérieur, à ce qu'il a fait. Il regarde à ce qu'il est intérieurement. Et intérieurement, il dit, je suis un pécheur, je ne suis pas digne que tu viennes en ma présence et je ne suis pas allé vers toi pour ça, parce que je suis un pécheur. Mais il veut aller beaucoup plus loin. Je l'ai exprimé tout à l'heure. En fait, il a appelé Jésus, pas pour lui, on le comprend bien, mais pour son serviteur. Mais cet homme, en se reconnaissant pécheur, reconnaît aussi quelque chose d'important, que seul Jésus peut faire des miracles. Alléluia. Hein. Seul Jésus, il a entendu parler de Jésus, que Jésus a une parole de vérité, parce qu'il exprime dans ce qu'il dit, il a une parole de vérité, une parole qui s'accomplit. Il a vu, il a su, il a connu tout ce que Jésus a pu faire. Et là, dans cette position d'humilité, reconnaissant qu'il est pécheur, il va dire au Seigneur Jésus, mais écoute, moi j'ai des supérieurs, je suis un soldat, hein, j'ai des responsabilités, j'ai des supérieurs sur moi. Quand ils me disent quelque chose, je le fais, mais j'ai aussi des hommes sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va, l'autre vient, il vient, ils font ce que je lui demande. Mais alors, toi, Seigneur, tu as les paroles de la délivrance. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Permettez-moi de dire que cet homme avait une foi en ce que Jésus était et en ce que Jésus disait. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie? Ne regardez pas à ce que vous êtes ou à ce que vous faites, mais regardez à celui qui peut tout pour vous et qui s'appelle Jésus-Christ. Avoir confiance en Jésus-Christ, croire à l'autorité de son nom, croire à l'autorité de la parole, croire à la puissance de Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, croire que les promesses de Dieu sont oui, amen, et de ne pas dire « il ne peut pas », mais de dire « tu peux tout, un mot de toi et il est guéri ». Et je suis guéri. C'est ça la vérité. Ne permettez pas au doute de rentrer votre cœur. N'écoute pas ce que peuvent vous dire les uns et les autres. Peut-être quelqu'un pourrait vous dire, mais tu sais, le Seigneur va t'accorder parce que tu es un gars bien, tu es une gentille dame, tu es un bon garçon, tu es une bonne fille, alors ça sera accordé de la part du Seigneur. Non, n'écoutez pas toutes ces voix. Placez-vous devant le Seigneur et dites-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi et en toi seul. Les hommes, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ne me connaissent pas, mais toi, tu me connais parfaitement. Et ce que je suis à tes yeux, c'est une créature que tu aimes, que tu veux bénir, que tu veux guérir, que tu veux sauver. Je ne suis pas parfait, mais toi tu es parfait et dans ta perfection tu peux me sauver et tu as donné ta vie pour ça. Et aujourd'hui tu peux me guérir parce que ta parole est la vérité. Un mot de toi, je sais que le mot que tu prononceras pourra guérir mon serviteur. Et Jésus ne s'est pas trompé. Jésus l'a écouté. Jésus a reçu sa parole. Et il va donner une conclusion formidable. Il va dire, lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. C'est rare de voir cette expression employée. Mais il admira le centenier. Se tournant vers la foule qui le suivait, car il n'était pas tout seul, il y avait la foule derrière lui. Et il va dire une phrase, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. C'est pas étrange, peut-être, ça vous parle pas trop. Mais le centenier, c'est un Romain. C'est un soldat qui a de nombreux hommes sous ses ordres. En clair, c'est un envahisseur. Et Jésus est en train de dire un étranger, un homme qui part du peuple de Dieu. Il n'est pas juif. Il a seulement entendu parler de moi. Mais il a entendu que c'était une parole de délivrance qui a été annoncée. Il en a eu l'écho. Et aujourd'hui, il dit, dans toute sa confiance, « Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus va répondre à cet homme, en se servant de la foule, « Je n'ai pas vu, même en Israël, c'est-à-dire parmi le peuple de Dieu, je n'ai pas vu une aussi grande foi. » C'est écrit. Eh oui. C'est pas que le Seigneur veut faire une quantité de foi, les grandes et les petites fois. Et là, on aurait trop de temps à parler, parce que là, il est écrit « Je n'ai pas vu ». Vous voyez, le regard de Dieu de Jésus est différent des autres. Les chefs des Juifs là sont venus en ayant leur regard fixé sur les qualités. L'homme a eu, lui, son regard personnel sur sa personne, mais Jésus, il ne voit pas l'homme, il ne voit pas les qualités qui ont été vantées, il voit ce qui était caché dans le cœur de cet homme, il voit la foi. La foi. Et je dirais en terminant, c'est que la foi, qu'elle soit grande ou petite, c'est la foi qu'il nous faut, une foi simple, une foi qui s'attend au Seigneur. Parce que je le dis, là, il y a grande foi, mais dans un autre passage et un autre enseignement de Jésus, il dira, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira, un grain de sénévé, c'est un petit grain de moutarde. Il dira, cette montagne qui est devant lui, ôte-toi et jette-toi dans la mer, elle le ferait. On pourrait dire que c'est un témoignage par une image. Mais il est vrai que si nous voulons être agréables à Dieu et si nous voulons voir la bénédiction de Dieu dans nos vies, si nous voulons obtenir le pardon de nos péchés et devenir une nouvelle créature, il nous faut la foi, il nous faut la foi. Il nous faut croire en Jésus-Christ, le libérateur, alléluia, de l'âme, du corps, de l'esprit. C'est lui qui détient dans ses mains votre victoire, votre bénédiction, votre guérison, votre avenir céleste. C'est lui qui le tient dans ses mains. Mais il ne peut l'accorder qu'à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Non pas la foi à un homme, non pas la foi à une idée, non pas la foi à une certaine façon de penser, non pas cela. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu as la foi en l'amour de Dieu, si tu as la foi dans les paroles de Dieu, alors rien ne te serait impossible. Car il est vrai qu'il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu ». Mais il est vrai aussi qu'il est écrit « Tout vous serait possible ». Et là, Jésus s'adresse aux hommes. Par rapport à ta foi. Maintenant, je terminerai en disant simplement ceci. C'est que si nous croyons de tout notre cœur, ne laissons même pas un espace, même tout petit, au doute. Il est écrit, il faut que celui qui croit en son cœur que Christ le Seigneur est le Tout-Puissant, qu'il ne doute pas en son cœur, et ce qu'il demandera, dit Jésus, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est là. Jésus est là. Présent dans ce lieu. Présent dans cette maison. Il est là. Et il veut bénir. Il veut agir. Gloire au Seigneur. Maintenant, il regarde au cœur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur. Ton cœur doit manifester la foi. Ton cœur doit manifester la confiance en Jésus-Christ. Et là alors, la main de Dieu se posera sur toi et le miracle te sera fait. Il est vrai que le Seigneur veut guérir le malade. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il guérisse notre âme. C'est qu'il guérisse notre vie passée, qu'on cache, qu'on ne veut pas dire. Mais laissez-moi vous dire que Dieu sait tout sur nous. Mais si nous reconnaissons que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs, si nous sommes assez humbles pour venir à lui et lui dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, quels qu'ils soient, je reconnais que j'ai péché. » Peut-être quelqu'un pourrait, je ne savais pas, mais aujourd'hui tu sais que tu as auprès de lui quelqu'un qui pardonne et qui sauve pour l'éternité. Qu'il a donné sa vie et que par son sang, toute ta vie passée loin de lui, si tu es sincère dans ta repentance, sera pardonnée et tu seras une nouvelle créature. Je ne dis pas cet après-midi que le Seigneur n'a pas le pouvoir de guérir vos corps, il en a le pouvoir, il en a la force, il en a la puissance. Mais il veut aussi pardonner vos péchés. Car le but, ce n'est pas uniquement de vous guérir. Le but du don de sa vie au calvaire, sur la croix, c'est de vous ouvrir le chemin du ciel. Alléluia. Oui ? Non ? À un tel point qu'il a pu dire ceci, lorsqu'il était près de Dieu, « Je m'en vais », et surtout à ses disciples, « Je m'en vais et je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Mais ça commence par un départ. Si tu ne t'es pas réconcilié avec Dieu, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à te réconcilier avec lui. Viens à lui, tel que tu es. Oui, viens à lui. Ne cherche pas à te disculper. Avoue simplement au Seigneur tes fautes. Dis-lui simplement, pardonne-moi. Vous savez, ça sera mon dernier verset de conclusion. Quand le brigand était sur la croix, eh bien, il a reçu le pardon de ses péchés. Pourquoi ? Parce qu'il dira sous une autre forme. Mais il dira ce que à son ami, son compère de brigandage, là. Il lui dira, pour nous, d'être crucifiés, c'est normal, nous avons commis des crimes, des délits, c'est normal. Mais lui, dira-t-il, il va confesser lui aussi sa foi, mais lui, il n'a rien fait de mal, Jésus n'a rien fait de mal. Et il meurt. Oui, il meurt pour nous, comme il est mort pour le brigand. Et là, le brigand va élever une prière simple. Seigneur, sois apaisé envers moi, parce que je suis un homme pécheur. Et aussitôt, le Seigneur va lui répondre. Aussitôt, il va lui enlever les craintes et les doutes quant à son avenir, qui est de vie à trépas. Et le Seigneur Jésus va lui dire aussitôt, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Oui, le Seigneur est guéri. Et il peut le faire aujourd'hui. Oui, le Seigneur est celui qui sauve aujourd'hui. Mais il faut que tu te reconnaisses pécheur si tu ne t'es pas réconcilié avec lui. Et pourquoi pas simplement prendre l'exemple de ce brigand. Seigneur, pardonne-moi, sois apaisé envers moi, parce que je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. Et aussitôt le Seigneur pardonnera. Son sang coulera sur vous dans votre sincérité, dans votre foi. Il lavera vos péchés et il mettra en vous la paix de l'éternité. Car c'est cela, la venue du Seigneur Jésus, la mort du Seigneur Jésus, c'est pour nous ouvrir le chemin du ciel et demeurer pour toujours en sa présence. Alors ami, qui que tu sois, fortifie-toi dans la présence de Jésus. Crois à l'autorité de sa parole. Crois à l'amour qu'il a manifesté au calvaire. Crois que dans le don de sa vie, tu reçois la guérison de ta maladie et le salut de la vie éternelle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle est la vérité.